VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui édition du mercredi 29 octobre 2017, Morgane Guerrier en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, le président ivoirien Alassane Ouattara a ouvert le 5e sommet Union africaine-Union européenne. 83 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Abidjan. 4 militaires camerounais ont été égorgés en zone anglophone. Félix Tshisekedi appelle les Congolais à manifester jeudi pour dire non au calendrier électoral, mais la manif est interdite par le gouverneur de Kinshasa. Le Conseil de sécurité se réunit cet après-midi à New York après le dernier tir de missile de la Corée du Nord. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara a ouvert le 5e sommet Union européenne-Union africaine en appelant les jeunes à ne pas tenter d'émigrer au péril de leur vie et en leur promettant d'améliorer leurs conditions de vie. On fait le point sur place avec Narita Namasté.
Le président Alassane Ouattara, hôte du sommet, a été le premier à prendre la parole. Le chef de l'État ivoirien a mentionné 3 défis à relever, la jeunesse, l'éducation et la sécurité. Le président Alassane Ouattara a déclaré que la jeunesse de la population africaine de 60% est un atout, mais également un risque pour les États africains s'ils n'arrivent pas à satisfaire aux aspirations de la jeunesse à laquelle elle aspire.
Chers jeunes, vous incarnez l'avenir de notre continent par votre dynamisme, votre ingéniosité et votre extraordinaire potentiel. Vous êtes un atout inestimable pour l'Afrique. Nous devons tout mettre en œuvre pour votre épanouissement sur notre continent qui a tant besoin de vous.
Au discours attendu, celui du président de l'Union africaine Alpha Condé, face au fléau de l'immigration, le président guinéen a appelé ses pairs africains à se donner la main pour apporter des solutions humaines à la question de l'immigration. Narita Namasté, Abidjan, VOA Afrique.
83 chefs d'État et de gouvernement, plus de 5000 participants à Abidjan pour ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. La capitale économique ivoirienne est sous haute sécurité. Georges Ibrahim Toumkara nous fait le point à Abidjan.
Sécurité renforcée à Abidjan pour ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. Pas moins de 15 000 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés dans le cadre de cette rencontre. Des forces de sécurité visibles au point stratégique de la capitale et sur les sites qui accueillent les participants. Les autorités ivoiriennes ont également fait appel aux forces spéciales, des forces spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Les grands hôtels de la capitale économique et ceux de la ville balnéaire du Grand Bassam, où logent certaines délégations, sont sous haute surveillance. Il en est de même pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, où ont atterri les avions de la plupart des délégations. Par ailleurs, des restrictions ont été faites au niveau de la circulation. Il est notamment interdit de stationner sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le plus grand boulevard de la capitale. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour la bonne tenue des travaux du sommet. Georges Ibrahim Toumkara, Abidjan, VOA Afrique.
6 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre orpailleurs à la frontière entre le Mali et la Guinée. Et ces violences qui se sont produites en début de semaine ont fait de nombreux blessés. Les deux pays se sont rejetés la responsabilité de ces affrontements qui ne sont pas une première dans cette zone riche en or. Les manifestations persistent au Togo. À l'appel de l'opposition, des milliers de personnes sont une fois de plus descendues dans les rues de Lomé. Mobilisation qui intervient en amont du dialogue politique promis par le pouvoir qui fait face à une contestation populaire depuis 3 mois. 4 militaires camerounais ont été égorgés dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud-ouest en zone anglophone du Cameroun. Les autorités parlent d'un acte mené par des terroristes. Les précisions depuis Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les faits se sont produits à Agbokeng-Djemen, où se trouve un poste avancé de l'armée camerounaise à la frontière Cameroun-Nigeria, dans le département de la Manyu, région du sud-ouest. C'est entre 1h et 2h du matin que ces militaires ont été égorgés, selon une source militaire. L'on parle d'une arme collective utilisée contre les éléments de force de défense du Cameroun. C'est ainsi que le chef de poste, deux de ses collaborateurs et le militaire en faction auraient été endormis mystiquement avant d'être égorgés. Les assaillants Satan serait venu du Nigeria voisin. C'est la première fois qu'un acte d'une telle envergure est enregistré dans la région du Sud-Ouest. Au cours du mois de novembre en cours, c'est dans le Nord-Ouest, toujours en zone anglophone, que 4 gendarmes avaient été égorgés à leur poste de commandement. Des actes qu'un certain Dr Cho Ayaba, se réclamant de la branche armée de l'Ambazonia, état imaginaire de la partie anglophone du Cameroun, avait revendiqué. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi appelle les Congolais à descendre massivement dans les rues de toutes les villes jeudi pour dire non au calendrier électoral. Le président du rassemblement a confirmé la tenue de la marche pacifique qui est pourtant interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'objectif de la marche pacifique de ce jeudi 30 novembre à travers toutes les villes de la RDC est pour le rassemblement de rejeter le calendrier électoral publié le 5 novembre dernier par la CENI et le pouvoir du président Joseph Kabila qualifié d'illégitime, a dit Félix Tshisekedi. Nous allons marcher pour montrer à M. Kabila que le peuple congolais rejette son régime illégitime, a-t-il souligné en conférence de presse. Il a par ailleurs appelé les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école, les personnes du troisième âge à ne pas quitter leur maison, les opérateurs économiques à fermer leurs boutiques et magasins et les propriétaires des véhicules de transport et véhicules privés à garer leurs engins. Au peuple congolais, Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation. Je me dois de dire au peuple que cette marche nous donne l'occasion de prouver à la face du monde que nous sommes un peuple mature. L'heure est venue au peuple congolais de se mettre debout comme un seul homme afin de dire non à la dictature épouvantable de Joseph Kabila et ses complices. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les Nations Unies ont demandé aux autorités de Kinshasa le respect des libertés à la veille de cette marche de l'opposition contre le président Joseph Kabila, interdite par les autorités. Violence entre communautés pastorales au Soudan du Sud. Au moins 50 personnes ont été tuées dans 2 raids menés lundi et mardi par une milice tribale dans l'est du pays. La plupart des victimes sont des civils dont les maisons ont été brûlées et le bétail volé, souligne l'AFP. Les 2 attaques ont été menées par des hommes armés de l'ethnie Mourlé et visaient des membres de l'ethnie Dinka vivant dans des villages à environ 150 km au nord de Bor, la capitale du Jonglé. Human Rights Watch dénonce les exécutions extrajudiciaires dans l'est de la Libye sous le contrôle des forces fidèles au maréchal controversé Khalifa Haftar. Les corps de 36 personnes exécutées par balle avaient été découverts fin octobre près de Benghazi. Et concernant la Libye toujours, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a dénoncé le manque de solidarité au sein de l'Union africaine et en particulier de la Libye à propos des migrants vendus comme esclaves. Un scandale qui sera au cœur du sommet Europe-Afrique à Abidjan.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain demande à la Chine d'utiliser tous les leviers disponibles pour faire plier Pyongyang après le nouveau tir de missile nord-coréen. Donald Trump promet l'adoption d'importantes sanctions supplémentaires contre le régime de Kim Jong-un. Jacques Aristide.
Le locataire de la Maison-Blanche écrit sur Twitter avoir parlé avec le président chinois Xi Jinping à propos des actions provocatrices de la Corée du Nord. Donald Trump affirme que d'importantes sanctions supplémentaires seront imposées à la Corée du Nord aujourd'hui. Nous allons nous occuper de cette situation, dit-il, sans préciser dans quel cadre, américain ou multilatéral, ces sanctions seraient adoptées. Dans un communiqué, la Maison-Blanche précise que Donald Trump a appelé Pékin à utiliser tous les leviers disponibles pour convaincre la Corée du Nord d'abandonner ses provocations et de retourner sur la voie de la dénucléarisation. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que son pays était devenu un état nucléaire à part entière après avoir testé avec succès un nouveau type de missile capable de frapper n'importe où aux États-Unis, un camouflé pour le président Trump qui avait assuré que le développement de telle capacité n'arriverait pas. La Chine n'a pas manqué de saisir la balle au bond. Elle a réitéré sa proposition de compromis, appelant Washington et Pyongyang au dialogue.
Sachant également que le Kremlin a dénoncé une provocation après le nouveau tir de missile balistique effectué par la Corée du Nord et appelle toutes les parties à garder leur calme. Pour parler sur le conflit syrien, la délégation du régime de Damas est arrivée en Suisse pour participer aux discussions de Genève sous l'égide de l'ONU. Le gouvernement avait refusé d'envoyer une délégation en raison des déclarations de l'opposition, réclamant une nouvelle fois le départ du président Bachar al-Assad. Mais la Russie, alliée militaire et politique de Damas, a convaincu le régime de participer aux pourparlers. Pendant ce temps sur le terrain, les enfants de la Ghouta orientale, région rebelle assiégée en périphérie de Damas, subissent actuellement la pire crise de malnutrition en Syrie depuis le début de la guerre en 2011, a rapporté aujourd'hui l'UNICEF. Il faut dire que près de 400 000 personnes sont prises au piège dans cette région située à l'est de Damas, assiégée par le régime syrien depuis la mi-2013. La moitié d'entre eux sont des enfants, rappelle l'UNICEF. Yémen, deux gardes ont été tués et quatre autres blessés dans un attentat à la voiture piégée visant le bâtiment du ministère des Finances à Aden, deuxième ville du Yémen, selon une source des services de sécurité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Eric Manirakiza, la Minute Éco.
La BAD s'engage de sortir 50 millions de jeunes Africains du chômage et du sous-emploi. Elle vient de lancer le groupe consultatif présidentiel de la jeunesse. D'après le président de la BAD, Akinwumi Adesina, cet organe est chargé de proposer des idées innovantes pour la création de plus de 25 millions d'emplois décents et durables en Afrique. En marge du 6e Forum des affaires Union européenne-Afrique à Abidjan, M. Adesina a déclaré que 13 millions de jeunes Africains entrent chaque année sur le marché du travail et 66 millions gagnent moins de 2 dollars par jour. Inauguration au Burkina de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest est financée à plus de 47 millions d'euros. L'électricité produite coûtera 3 fois moins cher que celle distribuée par les centrales thermiques. Elle permettra de réduire les rejets de gaz carbonique de 26 000 tonnes par an. En compagnie du président français Emmanuel Macron, le président Roch Marc Christian Caboret a précisé que Ouagadougou met tout en œuvre pour exploiter le soleil, l'une de ses principales ressources naturelles. La croissance de l'économie américaine a accéléré au troisième trimestre à 3,3%. Ce rythme répond aux ambitions de Donald Trump qui souhaitait une croissance d'au moins 3%. La consommation des ménages est restée relativement solide. Les Américains ont notamment acheté davantage de biens durables comme l'électroménager ou les voitures.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Mazembe souffre en championnat congolais.
Rentré hier à Lubumbashi après leur sacre en Coupe de la Confédération et après une courte nuit à célébrer avec les supporters, les Corbeaux de Mazembe ont réussi à battre dans les ultimes minutes à domicile de Buzyn, Don Bosco aujourd'hui en championnat congolais.
Une sanction en Tunisie ?
Oui, la Ligue nationale de football professionnel a communiqué une série de sanctions suite au match houleux disputé dimanche à Sousse entre l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis. Les joueurs étoilés Hamza Larmar, Kazi Abderazak, Mohamed Amin et Ben Amor et le joueur espérantiste Anis Badri seront tous convoqués devant le bureau de la LNFP. Tous seront suspendus de toute compétition en attendant. Les deux joueurs étoilés expulsés, Alkali Bangoura, 3 matchs de suspension et Amr Maraï, 2 matchs, ont également été sanctionnés, tout comme l'espérantiste Maher Segaer, qui lui aussi a écopé de 2 matchs de suspension.
La MLS s'agrandit aux États-Unis.
La Ligue nord-américaine de football a retenu aujourd'hui les candidatures de Cincinnati, Détroit, Nashville et Sacramento pour l'attribution de 2 prochaines franchises qui évolueront dans son championnat. Le prix d'acquisition d'une franchise a été fixé à 150 millions de dollars. On rappelle que la MLS oppose depuis cette saison 22 équipes. Une deuxième équipe de Los Angeles verra le jour en 2018, tandis qu'aucune date n'a encore été fixée pour Miami, le projet de David Beckham. À terme, la MLS veut avoir un championnat avec 28 équipes.
Enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
La star de la NBA, LeBron James, a été exclu d'un match pour la première fois de sa carrière, ce qui n'a pas empêché son équipe de Cleveland de l'emporter contre Miami 108 à 97. Leur 9e victoire d'affilée. Washington domine Minnesota 92-89. Les Utah Jazz qui dominent Denver 106-77. Enfin Milwaukee qui bat Sacramento 112-87.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En Centrafrique, la mise en place de la Cour pénale spéciale a du plomb dans l'aile. La communauté internationale dénonce l'ingérence du pouvoir dans la nomination des officiers de police judiciaire. Accusation rejetée par le comité de sélection. De Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Cette cour, composée de magistrats nationaux et internationaux, devra juger les crimes commis en Centrafrique de 2003 à ce jour. Alors qu'elle se met encore lentement en place, un bras de fer oppose l'exécutif et ses partenaires sur le choix des enquêteurs. La communauté internationale a dénoncé mi-novembre l'ingérence du pouvoir dans la nomination des officiers de police judiciaire. Selon une source proche de la MINUSCA, la mission de l'ONU, la liste initiale de policiers et gendarmes retenus après un test a été modifiée par le ministre de la Justice. Cette histoire a fait un buzz dans le pays et a suscité la colère de l'opposition. Nicolas Tchangaï, ancien chef du gouvernement et président de la Convention républicaine pour le progrès.
Le comportement de notre gouvernement a amené la communauté internationale non seulement à boycotter la cérémonie de prestation de serment, mais à suspendre le financement de la Cour pénale spéciale. Les enjeux pour nous sont extrêmement graves. La question de l'impunité est au centre de la crise. Et si nous ne réglons pas la question de l'impunité, nous ne sortirons pas de la crise.
Le 24 novembre dernier, le ministre de la Justice, Flavien Mbata, a été interpellé par les députés à l'Assemblée nationale sur le même sujet. Le garde des Sceaux s'est justifié devant les élus de la nation, évoquant un déséquilibre du point de vue représentativité régionale et genre dans le choix des enquêteurs. Même position partagée par Éric Didier Tambo, procureur général de Bangui.
Nous étions surpris de voir qu'il y a déjà un rapport qui était déjà établi avec le redéploiement des 10 officiers de police judiciaire. Je détenais encore les notes d'informatique en ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la gendarmerie. Ayant eu ces redéploiements, je me suis dit, est-ce qu'en dehors de ce panel, il y a un autre panel qui siège pour délibérer? J'ai demandé à tout le monde de me donner les documents. J'ai protesté vivement et j'ai ordonné au secrétaire d'annuler cela. Dès qu'on a fait les calculs, ça faisait 65% d'une même ethnie, d'une région. Et ils ont enlevé quelques admis pour mettre quelques noms. Et je leur ai demandé, est-ce que ce panel-là, c'est une chambre d'enregistrement? J'ai informé mon ministre.
Les officiers de police judiciaire sur la liste contestée ont déjà prêté serment. Bien qu'invités, la MINUSCA et les bailleurs qui financent en partie la Cour pénale spéciale avaient boycotté la cérémonie. Aujourd'hui, les bailleurs menacent de suspendre leur financement jusqu'à ce qu'une issue soit trouvée. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Nouvel épisode dans la crise au Cameroun anglophone. 4 militaires ont été assassinés par des séparatistes présumés dans le sud-ouest anglophone, portant à 8 le nombre de militaires tués en un mois dans ces régions. Ces attaques ont été attribuées par le gouvernement aux séparatistes anglophones et à l'Assemblée nationale. Des membres du parti d'opposition, SDF, ont perturbé les débats. Analyse avec Joseph Banadzem, président groupe parlementaire SDF, joint à Yaoundé par Anastasie Tudiech.
Nous déplorons toute mort. Nous déplorons que le nombre de soldats soit porté à 8.
Que répondez-vous aux accusations du gouvernement qui imputent la mort des militaires assassinés aux séparatistes anglophones?
S'ils le disent, ils sont sous place. Donc ils doivent avoir d'amples informations sur ça. Donc moi, à Yaoundé, sans d'autres informations, je ne peux que constater ce qu'ils nous disent.
Alors, vous êtes à Yaoundé. Ce mercredi, des députés de votre parti ont perturbé les débats à l'Assemblée nationale pendant un discours du Premier ministre Philémon Yang. Pourquoi?
Ça fait d'une façon intense, depuis plus de 2 semaines. Que nous disons que ce que nous venons de constater là, un certain niveau de violence est en train de s'installer dans notre pays. Et nous disons au gouvernement d'ouvrir un débat, de nous donner l'occasion à l'Assemblée pour que nous nous exprimions sur la situation dans le pays. Qui s'achemine vers une catastrophe. Et nous avons un fin de non-recevoir des pouvoirs publics du gouvernement, du premier ministre. Oh, nous sommes désespérés. Nous voulons nous faire entendre notre voix. Nous voulons contribuer, dire que nous nous échangeons pour savoir ce qui se passe, pourquoi la partie anglophone est bloquée. En dehors de ce qui se passe, nos enfants ne vont pas à l'école depuis un an. Les activités économiques sont bloquées. Il y a une très, très forte militarisation des deux régions. Il y a des gens détenus en prison depuis un an. Et chaque jour, il y a de plus en plus de citoyens qui sont amenés dans les prisons. Donc, nous avons et nous demandons un départ, une discussion dans la Chambre pour savoir ce qui se passe. Le gouvernement nous dit non, il ne veut pas entendre. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de dire au gouvernement, tant que le problème anglophone n'est pas débattu en Chambre, nous disons qu'il n'y aura rien qui va se passer à l'Assemblée.
Joseph Banadjem, président du groupe parlementaire SDF, joint à Yaoundé.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, analyse du dossier des migrants africains. 164 000 sont arrivés par la mer en Europe selon les derniers chiffres publiés par l'OIM, mais 3 000 autres ont perdu la vie en mer. D'autres sont réduits en esclavage en Libye. La question migratoire est l'un des deux grands thèmes du sommet Afrique-Europe à Abidjan les 29 et 30 novembre. Pensez-vous que les 80 chefs d'État sur place vont trouver des solutions à ce problème? Comment éradiquer ce fléau? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Burkina Faso, inauguration de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest en périphérie de Ouagadougou, en présence du président français Emmanuel Macron. Financée par un consortium de bailleurs de fonds et l'État burkinabé à plus de 47 millions d'euros, la centrale de Zaktouli, dont la construction s'est étalée sur 2 ans, vient appuyer l'offre énergétique au Burkina Faso. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
C'est ici, à la périphérie ouest de Ouagadougou, que se dresse sur près de 60 hectares la centrale photovoltaïque de Zaktouli, la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. La centrale promet un apport d'importance, explique le professeur Alpha Omar Dissa, ministre burkinabé de l'énergie.
La centrale de Zaktouli est une centrale de puissance PIC 33 MW, avec donc un projet à court terme d'extension à 50 MW. Pour l'instant, ces 33 MW vont permettre donc de produire annuellement environ 55 GW et cela représente environ 5% de la production au plan national et plus du quart de la production de la ville de Ouagadougou.
Cette centrale répond à un virage effectué sous l'impulsion des autorités vers les énergies renouvelables afin de résorber de façon progressive la faible puissance en offre énergétique. Le ministre Alpha Omar Dissa.
Nous sommes en train de lancer tout un vaste programme de construction de centrales solaires dans les 13 régions du Burkina. Très bientôt, nous allons lancer 8 centrales dans cette région, plus 2 autres centrales sur 2 autres régions, plus une dernière centrale donc de 40 MW qui sera la centrale d'après Zaktouli et qui va se faire dans la partie nord-ouest de la ville de Ouaga.
Disséminée sur l'aire du site, à perte de vue, plus de 129 000 panneaux ont déjà commencé à fournir de l'énergie qui subit une transformation préalable avant injection, indique le chef de projet Seydou Nana.
Ça sort du courant continu, mais nous n'utilisons pas le courant continu pour nos besoins quotidiens, nous utilisons du courant alternatif. Cette transformation ne suffit pas pour que ça soit injecté sur le réseau national interconnecté. Il faut élever. On va passer donc de 400 120 volts à 33 000 volts. Et sur place, on a installé 129 600 panneaux qui occupent environ 60 hectares. Alors nous avons réparti donc les champs en 16 parties et avec les CPI, les centres photovoltaïques, c'est là où va se faire donc cette transformation de courant continu en courant alternatif pour que ça puisse être injecté.
La part de la centrale de Zaktouli n'est pas à négliger dans les objectifs d'atteinte de 30% de solaire dans le bouquet énergétique engagé au sein du ministère de l'Énergie, soutient le professeur Alpha Omar Dissa.
Dans une politique, quand vous dites que vous voulez atteindre 30% du solaire dans votre bouquet énergétique, quand vous avez une centrale de 33 MW pour une capacité au plan national installée qui n'atteint pas 400 et qui est de 5%, vous voyez que ce n'est pas négligeable dans les objectifs que nous sommes en train de rechercher. Donc le solaire pour nous, et parlons là des énergies renouvelables de façon globale, est un choix stratégique pour pouvoir résoudre notre déficit, mais en même temps pouvoir donc jouer sur le coût du kilowattheure qui, il faut le dire, jusque-là était l'un des plus élevés donc, de la sous-région.
Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était en visite au Kenya cette semaine. Il a annoncé que son pays allait ouvrir une ambassade au Rwanda en vue de renforcer l'influence diplomatique de l'État hébreu en Afrique. Benjamin Netanyahou a également réaffirmé que son pays cherchait à obtenir le statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Pour en parler, John Lindon a joint Scott Bob, journaliste et analyste politique depuis Austin, au Texas.
L'Israël a toujours eu intérêt en Afrique et a des relations de coopération qui datent presque de l'indépendance. Mais ceci représente une deuxième partie de l'offensive lancée par Bibi Netanyahou, le Premier ministre, il y a un an et demi, pour un contrarié à la campagne palestinienne devant les organisations internationales, mais aussi de promouvoir l'influence de l'Israël et de souligner qu'il y a des liens entre l'État d'Israël, l'État juif et les pays de l'Afrique.
Et qu'est-ce que le continent africain peut gagner dans sa coopération avec Israël et qu'est-ce qu'il peut offrir à Israël?
Le continent peut gagner beaucoup. Déjà, dans les secteurs de santé, agriculture, sécurité, hydroélectricité, informatique, il y a des liens officiels et non officiels, mais c'est surtout pour l'Afrique encore un soutien de coopération. L'Israël, par exemple, qui a inventé des méthodes d'agriculture pour les régions désertifiées et aussi, par exemple, dans l'informatique qui est mère de beaucoup de start-up. Mais aussi de la part d'Israël, l'Afrique représente un soutien pour son offensive de contrarier, par exemple, certaines résolutions aux Nations Unies qui vraiment critiquent sévèrement l'Israël pour ses politiques. Et aussi, n'oublions pas que l'Israël s'affronte aussi à une sympathie en Afrique pour la campagne de boycott des sanctions contre l'Israël à cause de ses peuplements en Cisjordanie et deuxièmement les expulsions d'immigrants illégaux, surtout africains, de l'Israël ces dernières années. Donc il y a un effort pour contrarier pour l'Israël qui l'intéresse, mais aussi pour l'Afrique, il y a quand même des atouts à gagner.
Au-delà d'Israël, l'Afrique est devenue un point d'attraction de plusieurs puissances internationales. Pourquoi cela?
Eh bien, l'Afrique représente, on dit, la dernière frontière de croissance, d'opportunités énormes économiquement. Une économie continentale qui a grandi de 5% même pendant cette grande récession dont on est en train de laisser, démontre qu'il y a une possibilité de gain économique que vraiment non seulement les intérêts des gouvernements, mais aussi des compagnies privées sont intéressées depuis très longtemps, une décennie au moins.
Scott Bob, journaliste et analyste politique depuis Austin, au Texas.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Viriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.